avec Benoît Marchal.
Bienvenue, bienvenue pour le 122e épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Trois segments dans cet épisode, comme d'habitude, avec l'édito, où on traite de nouveaux espaces sur le blog, le segment principal qui relate une expérience photographique plutôt exceptionnelle, et je vous laisse deviner la nature avec ce court extrait.
C'est le paquet cadeau, quoi. On ne sait pas, on voit surgir Leonardo DiCaprio, Sharon Stone, à tour de rôle.
Et enfin, le troisième segment avec vos commentaires et vos réactions. Retenez dès à présent l'adresse du blog, www.déclencheur.com. C'est là que vous trouverez tous les liens d'épisode. Vous pourrez laisser un commentaire ou vous abonner. Et vous verrez qu'on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, iTunes, l'email et tous les agrégateurs RSS, y compris donc les pages d'accueil Google et NetVibes. Vous pouvez évidemment écouter les épisodes sur le blog, mais pour plus de confort, je vous conseille de les télécharger sur un iPod, un baladeur MP3, un téléphone multimédia, ou tout simplement de graver un CD et les emporter avec vous pour les écouter partout où on écoute la radio, en voiture, en jardinant, en faisant du shopping ou lors d'une séance photo. Premier segment, donc l'édito. Et l'édito sert traditionnellement dans Déclencheur soit à vous tenir au courant de l'évolution du podcast, soit à échanger sur l'un ou l'autre sujet photo. Or, depuis le lancement de Déclencheur, ces éditos sont pour moi une grande source de frustration. Parfois, je voudrais vous parler d'un sujet, mais je n'ai pas d'épisode prévu cette semaine-là, et donc en final, je n'en parle jamais. Parfois, à l'inverse, il m'est arrivé de retarder un épisode parce que je n'étais pas arrivé à trouver un sujet pour l'édito. Et je trouve ça un petit peu dommage. Par ailleurs, Déclencheur a beaucoup évolué depuis le lancement. En audio, j'ai introduit les Déclencheurs Duo, qui sont des épisodes courts que je glisse au fil de l'inspiration ou au fil des rencontres. Le dernier, par exemple, relatait ma rencontre avec Renaud de Focus Numérique. Le mois dernier, on a annoncé le Wiki News pour échanger sur le matériel photo. Et aujourd'hui, je vous annonce un nouvel espace sur www.déclencheur.com, un blog baptisé Déclencheur Carnet. Et Déclencheur Carnet, ce sera un peu le pendant écrit des duos. L'idée étant de tenir le carnet des activités sur Déclencheur, j'y donnerai donc des nouvelles sur le podcast. Par exemple, j'ai récemment écrit deux billets sur le Festival de Romans et un billet sur une grosse bêtise qui m'a fait perdre une journée d'enregistrement. Vous irez les lire pour découvrir toute cette histoire. Je voudrais aussi essayer de vous impliquer davantage dans les émissions. Or, déjà, plusieurs d'entre vous ont contribué à des épisodes, et l'idée serait de pouvoir le faire plus facilement. Parfois, il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas d'expérience propre, et pour lesquels il n'y a pas nécessairement une personne de contact qui s'impose. Mais de nouveau, un peu comme sur le wiki, en collaborant et en mettant nos expériences ensemble, je crois qu'on couvrirait magnifiquement ces sujets-là. C'est-à-dire que je vous propose d'écrire le sujet ensemble. Donc on aura 2, 3, 4 billets sur carnet qui permettront de dégrossir le sujet avant de l'enregistrer. Si vous êtes abonné à Déclencheur, notez que Carnet et le Wiki News ont des fils RSS séparés de votre abonnement actuel. Si vous êtes abonné par email, vous recevrez tout, mais si vous êtes abonné par RSS, il faudra, si vous le souhaitez, activer des abonnements supplémentaires. Et donc l'édito va changer de forme pour s'adapter à ces nouveaux espaces, puisqu'à partir du prochain épisode, l'édito sera un peu un résumé des choses à aller lire sur le Wiki News ou Carnet. Et je commence tout de suite en vous signalant deux éléments importants. D'abord, Déclencheur et Nikon organisent un concours pour fêter le lancement du Wiki News. Le thème, c'est « Mon matériel et moi ». Donc, on vous invite à réaliser une photo qui illustre votre rapport au matériel photo. Donc, bien sûr, il y a le grand classique et l'autoportrait caché derrière l'appareil, mais je crois qu'on peut faire mieux pour illustrer comment le matériel influence le travail du photographe, influence votre travail. Et je compte sur vous pour être créatif. À gagner, il y a un réflexe numérique Nikon D60, deux compacts, dont le dernier Coolpix sorti, et pour les 10 meilleurs, une exposition chez nos amis de Posté. Vous trouverez tous les détails pour participer sur le blog www.déclencheur.com. Deuxième nouvelle, pour lancer immédiatement ces épisodes où on va travailler à plusieurs, je vous propose d'aborder les galeries photos en ligne. Donc si vous avez une galerie, si vous en êtes content, si vous n'êtes pas content, si vous avez un avis sur l'un ou l'autre service, eh bien allez commenter le billet correspondant sur Déclencheur Carnet. Deuxième segment, une rencontre avec le capitaine Claude Borrelli, un policier passionné de photos qui a eu l'occasion de photographier les stars hollywoodiennes. Il va nous raconter comment tout ça s'est passé. Je suis avec le capitaine Claude Borrelli. Bonjour.
Bonjour Benoît.
Dans le cadre de ton métier, tu as eu l'occasion de vivre une expérience que beaucoup de photographes amateurs, je crois, t'enviraient. Sans rentrer dans les détails en deux mots, tu étais en voyage, on va dire en voyage d'affaires à Los Angeles. Et dans ce cadre-là, tu étais amené à réaliser une série de photos, c'est ça?
Oui, effectivement. Donc, moi, je suis un policier de terrain, hein, puisque je suis en province, à Valence, dans la Drôme, hein, qui est dans le sud de la France. Le ministère de l'Intérieur qui organisait une mission, puisque dans la police, on appelle ça des missions, hein, pas des voyages d'affaires.
Ah,
non, non, mais c'est pas grave.
C'est mon habitude voilà, du secteur privé.
Donc, dans le cadre d'une mission à Los Angeles pendant 15 jours, bon, le photographe du ministère de l'Intérieur étant indisponible, ils ont eu l'idée de lancer le challenge à un photographe de la police nationale, tout corps confondu, toute direction confondue, tout lieu confondu, tout commissariat confondu. Donc il y a eu une présélection, il fallait envoyer en fait, au départ 10 photos qui représentaient le métier de la police dans toutes ses diversités, 10 photos à la fois originales et artistiques. Là, j'ai été présélectionné, on s'est retrouvé 10 à Paris, où on a subi encore 3 autres épreuves pour être sélectionné pour cette mission. Ben, disons, il y avait une épreuve technique, avec 40 questions sur les connaissances photographiques, diaphragme, profondeur de champ, etc., etc. Ensuite, il y avait une épreuve de rapidité, il y avait une mise en scène, donc avec une autorité qui venait signer un protocole dans un étage. Donc là, il fallait faire les photos de l'arrivée des voitures, les poignées de main, les signatures, dans les escaliers, etc., ne rien rater de l'événement. Ça, c'est pour nous tester sur notre rapidité de maîtrise de l'appareil. Et là, après, c'était 15 heures. Ils nous ont dit, voilà, vous avez une heure pour représenter la sécurité du ministère de l'Intérieur en 5 photos, originales et artistiques, top chrono, à 16 heures. Vous me nous ramenez les photos. Et voilà, donc on a rendu les cartes à 16 heures. Et j'ai appris quelques heures plus tard que j'étais sélectionné pour cette mission comme le photographe officiel d'une mission à Los Angeles.
C'est intéressant parce que, si j'ai bien compris, donc tu es policier, c'est pas ton métier de faire de la photo. Et donc, tu te retrouves en fait quelque part avec néanmoins un impératif de produire des images de qualité.
Dans le cas de mon métier, je ne fais pas du tout de photo. Hein. Je l'ai dit, je suis un policier de terrain. Et c'est vrai que là, c'était le rêve, quoi. Le rêve total. D'abord, d'être payé par son employeur pour faire de la photo pendant 15 jours. Aux États-Unis, en tant que photographe amateur, on ne peut pas espérer mieux.
Tu as fait 2 opérations de shooting. La première, bah, c'était dans le cadre de la mission. Tu as suivi la mission.
C'était en fait 40 motards de la police nationale qui allaient faire là-bas une rencontre à la fois diplomatique entre les deux pays et d'information entre les techniques policières des États-Unis et de la France. Donc c'était 40 motards qui sont venus avec leur moto. Donc c'était 40 motards en exhibition. Donc il y avait un beau cortège de motards français à photographier là-bas.
Tout le long des belles allées et des paysages américains. En termes de matériel, tu avais emporté quoi ?
Alors, personnellement, j'avais mon appareil, j'avais mon Nikon D200 avec un zoom, c'est le 17-55-2.8, plus un vieux zoom que j'avais sur mon ancien 90X, qui est le 80-200-2.8, plus un flash SB800, ça c'était mon matos à moi. L'autre petit matériel que j'ai absolument pas regretté, c'est un petit disque dur Nomad qui permet d'insérer les cartes Compact Flash. Alors ça, pour quelqu'un qui part en voyage ou en mission, c'est une perle. Moi, j'ai eu fait par jour jusqu'à 800 photos et je me suis aperçu que ma carte de 2 gigas ne suffisait pas. Donc ce petit disque dur me permettait de décharger ma carte, la formater et repartir à zéro tout en ayant sauvegardé mes images. Ça, c'était une perle. Hein. Un petit disque dur Nomad, c'est fantastique. Parallèlement, pour en revenir au matériel, ma direction m'avait fourni un Canon. Alors eux, c'était un Canon 30D avec pareil 2 zooms. Alors je m'en souviens plus, mais c'était le même acabit en équivalence avec les zooms Nikon que j'avais emporté et un flash. Mais j'ai fait beaucoup moins de photos avec le Canon que je maîtrisais peu qu'avec mon Nikon perso. Je l'ai reçu le jour du départ, j'ai lu la notice dans l'avion, j'ai lu la notice le soir à l'hôtel et j'avais beaucoup de mal à le maîtriser au départ.
Ouais, c'est pas génial, ça c'est trop court. Hein.
Trop court.
Et puis surtout, ce sont quand même des ergonomies très différentes. On n'a pas les mêmes réflexes, je veux dire.
Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai toujours une Nikon. Hein. J'ai commencé avec le 801, j'ai eu le F90X, j'en ai eu un autre F90X, j'ai failli passer après au F5, voire au F6, et puis bon, le numérique étant arrivé, je suis passé au 200. Mais je maîtrise beaucoup mieux, bien sûr, par habitude déjà, l'ergonomie Nikon. Il n'y a pas photo.
Comme ce n'est pas ton métier au point de départ, comment est-ce que tu t'es préparé pour être capable de suivre la mission ?
Alors, j'ai appris sur le terrain, je n'ai pas pu me préparer parce que le concours, j'ai su que je l'avais gagné le 1er décembre et on est parti le 1er janvier. J'ai juste eu le temps d'acheter, on va dire, un objectif supplémentaire pour mon appareil perso, bien qu'un autre m'était fourni avec. Mais j'ai tout appris sur le terrain. Heureusement qu'il y avait quand même un caméraman, puisqu'il y avait un petit pool vidéo qui est chargé de com, comme on appelle ça, chargé de communication pour le DVD de la police nationale, qui était photographe de formation et qui m'a un peu briefé. Là-bas, je me souviens par exemple que les motards français se sont alignés pour faire une pause. Ils ont aligné leur moto. Et au-dessus d'une sorte de tour, il y avait un drapeau américain. Donc il s'est couché par terre, lui, avec son appareil, et il s'est mis en contre-plongée, et il a fait les motards français avec le drapeau américain qui masquait le soleil, donc un magnifique contre-jour avec un petit effet de flash. Bon, ça, c'était dès le premier jour. Donc, j'ai vite compris comment on pouvait faire une très belle photo à la fois artistique et d'information.
Tu as donné des conseils ?
Ben, c'est surtout pas de la technique photo vraiment. C'est surtout l'anticipation d'événements. C'est-à-dire ne pas quitter des yeux l'objectif, quoi qu'il fasse. C'est-à-dire une autorité française qui va rencontrer une autorité américaine, il ne faut pas le quitter des yeux. On a l'impression qu'il va aller, qu'il va s'isoler dans un coin pour téléphoner. Il ne faut quand même pas le quitter. Il faut être derrière lui, toujours un petit œil. Il peut se passer quelque chose et on va rater la photo qui va être utile. L'anecdote, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Le FBI qui était venu, c'est la seule fois où on a vu le FBI à Los Angeles. Il y avait un beau camion avec des ordinateurs, des antennes paraboliques, des gars, alors comme dans les films, en smoking noir, ceux-là ne sont pas en uniforme. Bien sûr, je les ai vus. J'ai un peu photographié le camion, et puis à un moment, les policiers français sont passés à pied devant le camion. Ils se sont arrêtés 5 minutes, ils ont serré la main au gars du FBI, ils sont partis. Et le soir, il fallait shooter des photos, environ entre 6 et 10, à notre direction, qui représentaient un petit peu le programme de la journée. Et arrivé le soir à l'hôtel, il me dit « Est-ce que vous avez des photos du camion du FBI ?» Il me faut le camion du FBI et des policiers qui discutent avec les gars du FBI. Et ça, on ne me l'avait pas demandé. Et heureusement que je l'avais fait. Alors, j'avais très peu de photos. J'en avais fait moins d'une dizaine. Mais il y en avait une qui était bonne. Voilà le type de demande à laquelle je n'étais pas du tout préparé. Et justement, ce collègue me disait à chaque fois « photographie ça », parce qu'on nous le demandait après.
C'est anticipé deux fois, je veux dire. Anticiper le mouvement du sujet et puis anticiper les demandes du service de com, en fait.
Exactement ça, voilà. Comme font les photographes people ou même les paparazzi, il ne faut pas hésiter à aller voir le serveur, le maître d'hôtel, le petit personnel qui savent beaucoup de choses. Je crois que c'est comme ça que travaillent les paparazzi. Où est-ce qu'ils vont aller ? Est-ce qu'il est prévu quelque chose ? Ce genre de petits événements qui sont précieux, quoi. Mais ça sort, on va dire, du contexte de photographe traditionnel. C'est le photographe de presse, quoi. On avait des journées très chargées parce que le métier du photographe, maintenant, ben, le soir, c'est bien sûr décharger les photos sur l'ordinateur. C'est déjà en éliminer certaines. Alors, il faut savoir que c'était quand même une mission compacte, hein. On avait des réceptions le soir. On rentrait régulièrement à minuit, 1h du matin, pour repartir le matin à 6h, mais le photographe a du boulot, il faut qu'il mette ses accus. Dans mon Nikon, j'avais la poignée avec les deux batteries, mais je n'avais qu'un chargeur. En plus, aux États-Unis, c'est du 110 volts, ça se charge on met plus longtemps pour le charger. Donc j'étais obligé de mettre le réveil en pleine nuit pour changer les batteries, pour les recharger. Après avoir donc trié sur mon ordinateur, classé, parce que DCS00138, ça ne veut rien dire, il fallait les renommer. Bon, tout ça, ça prend quand même une bonne demi-heure, une bonne heure, selon le type d'ordinateur qu'on a. Donc, beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Il faut savoir que c'est beaucoup de travail. Et encore, je n'avais pas une agence de presse qui me réclamait les photos en urgence. C'est vrai que c'est un métier, pour le stress, qui doit être impressionnant.
Ça vaut la police ?
Presque.
Pour le stress.
C'est autre chose.
Les conseils que tu aurais bien aimé qu'on te donne avant que tu ne partes ?
Ben déjà, bien maîtriser la technique. Hein. Il faut vraiment la connaître sur le bout des doigts, pas avoir besoin à chaque fois de regarder le manuel, c'est impossible. L'autre, c'est de savoir anticiper, savoir toujours un petit peu qu'est-ce qu'on va nous demander, qu'est-ce qu'il va se passer lorsqu'on a besoin de faire une photo, qu'est-ce qu'il peut se passer. Il faut savoir se placer. Un photographe qui traite ce genre de sujet est habitué, il sait un petit peu ce qui va se passer. Moi, je n'étais pas habitué, donc je n'étais pas tout le temps à la bonne sensibilité, je n'étais pas tout le temps sur le bon objectif, pas à la bonne profondeur de champ. Voilà un petit peu les difficultés matérielles. Moi, j'ai été impressionné de voir comme certains photographes parviennent à se placé avant même que l'action se passe et d'être au bon endroit, quoi, pour faire la belle photo. Je sais que j'ai loupé une superbe poignée de main, hein, puisque à un moment on avait vu c'était le chef des Highway Patrol, donc ça c'est la police d'État de Californie, hein, qui eux couvrent tout l'État, surtout la police routière. Et donc ils sont venus rencontrer le grand patron là, de la police française qui venait avec nous ce jour-là. Et j'ai loupé totalement la poignée de main. Donc ils sont arrivés un côté, de l'autre. Moi j'attendais tout bêtement au pied de ma tribune officielle, là où il y avait les drapeaux, les micros. Je me suis dit, ils vont venir là. Ben non, ils se sont serrés la main totalement derrière. Et cet autre vidéaste qui avait toujours un petit Nikon en bandoulière a fait la photo. Ça c'est un des exemples. L'autre exemple, c'est que je suis tout bêtement tombé en panne de flash sur un événement important aussi avec un un échange de cadeaux avec des autorités américaines. Et ben voilà, il m'a dit, il m'a montré sa poche, lui. Il avait toujours quelques piles rechargées dans sa poche, ce que moi, je n'avais pas.
J'ai bien entendu qu'à différents moments, et c'est normal, hein, c'est le métier qui rentre quelque part, tu es un peu frustré. De quoi est-ce que tu es content, par contre ?
J'ai des photos en tête que j'ai très bien réussies. Ben, par exemple, sur l'ensemble de la mission, à un moment, les policiers français ont fait une exhibition, ce qui s'appelle un carrousel. C'est une sorte de petit balai à moto, avec des motos super décorées, qu'ils font ça en tenue d'honneur, c'est magnifique à voir. Et à la fin, ils sont venus chercher un drapeau américain, et ils viennent en pointe de diamant sur le milieu de la piste avec ce grand drapeau américain. Et là, j'étais magnifiquement bien placé. C'est-à-dire, j'ai fait une photo donc, de face, les motards qui arrivaient en pointe de diamant, ce drapeau qui flottait au vent, là, c'était parfait. Ça va peut-être servir à faire des plaques, voire des posters, enfin, j'en sais rien, mais c'était une magnifique photo. Ça, c'était une photo professionnelle. L'autre, c'était avoir loué la moto pour photographier le cortège. Quand il fallait que je photographie les 40 motards sur les highways américaines, ben, c'est pas évident. Hein. 40 motards, ça fait quand même une chenille d'environ 200 mètres, hein, voire un peu plus selon les espacements. Au départ, on les suivait dans un van et on s'est aperçu qu'on n'était jamais bien placé. Donc, on s'est retrouvé à avoir loué une moto où je me suis placé à l'arrière. Mais même là, il y a une difficulté de se retourner. Lorsque je voulais faire des vues, ben, on passait devant le cortège et j'étais obligé de les photographier. Donc, j'étais obligé de me retourner. Ben, c'est pas évident sur une moto, on va dire à 90 km/h déjà, c'est déjà pas mal. C'est très, très difficile. On a les yeux qui pleurent, on a le casque, on n'arrive pas à approcher l'appareil de l'œilleton, on voit plus le diaphragme lequel on travaille. Bon, voilà, ça fait partie des initiatives qu'il faut avoir pour faire de bonnes photos.
Alors ça, c'était donc le reportage qui était prévu lors de la mission, je ne me trompe plus maintenant. Mais à côté de ça, tu as eu la chance d'avoir une entrée à une cérémonie assez exceptionnelle, les Golden Globes. Tu nous racontes comment tu as pu y rentrer ?
Eh bien, c'était prévu aussi dans la mission. Alors, un petit peu par le protocole, un petit peu aussi par, les Américains, je pense, ont voulu remercier les policiers français de venir. Et donc, étant donné que ce sont des motards de prestige, hein, vu que 20 d'entre eux, ce sont ceux qui sont chargés des escortes présidentielles et ministérielles, hein, donc c'est des motards parfaits, ils ont eu l'honneur d'escorter les limousines de stars lors de l'arrivée au Golden Globe. Donc deux motards prenaient une limousine, acheminaient donc cette limousine devant sur le tapis rouge des Golden Globes et retournaient en chercher une autre. Donc à tour de rôle, il y avait un petit turnover. Voilà donc la mission des motards. Et moi, ma mission, bah, c'était de photographier les motards qui escortaient les stars lors de l'arrivée des stars au Golden Globe sur le tapis rouge. C'était fantastique. Hein. D'ailleurs, moi, j'étais au début du tapis rouge puisque j'avais l'autorisation. C'était le but de ma mission. Tous les photographes, alors il faut savoir que les Golden Globes, c'est organisé par une association de presse internationale, hein, et que donc il y avait des dizaines et des dizaines de photographes du monde entier qui étaient derrière moi. Et bon, alors le but, c'était de ne pas trop les gêner, puisque nous, on était invités, mais eux, ont payé cher pour faire ces photos. Heureusement que le tapis rouge est long et que les stars, bon, passaient aussi devant eux. Mais à l'ouverture des portières, c'était moi qui étais devant eux.
Alors, comment ça se passe ?
Ben, on a le cœur qui bat lorsqu'on est aussi passionné de cinéma. Lorsque vous voyez Brad Pitt qui vous passe devant, Clint Eastwood, Jack Nicholson, des dizaines et des dizaines, on a déjà le cœur qui bat. Ce sont des gens qui, ce jour-là, sont en exhibition. Hein. Ce sont des stars, ce sont des vedettes du cinéma. Ils n'aiment peut-être pas se faire photographier quelquefois dans leur vie privée, mais ce jour-là, ils sont en exhibition. Une anecdote, il y a Jimmy Fox, celui qui a donc joué dans Ray Charles et autres films, qui donc descend. Il me voit arriver, bien sûr, en premier avec mon appareil, et il se met à me faire des mouvements de karaté, enfin devant, enfin des trucs délirants, quoi. On se dit, je rêve. Et bon, je ne sais pas si je devrais le dire, mais j'ai raté ces photos.
Le stress, l'émotion ?
Ouais, l'émotion, manque de mise au point, manque de rapidité, j'y reviens encore, et puis voilà, mal préparé. Le temps, il a fait ça pendant, on va dire, une vingtaine de secondes, et puis je me suis aperçu que mes photos étaient floues, de colère, j'ai tout enlevé.
Pourtant, du point de vue photo, ça donne l'impression d'être simple. Tu es devant, tu n'as personne devant toi, tu as la personne à photographier. Ça a l'air beaucoup plus simple, ça n'a pas l'air d'avoir cet élément de vitesse dont tu parlais à l'instant.
Mais c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai. Mais par contre, moi, j'avais été briefé. C'est vrai qu'on avait bien été briefé de dire, voilà, vous, les policiers français, vous êtes invités ici. Derrière vous, il y a des photographes. Il ne faut pas les gêner. Si vous les gênez, on va vous faire dégager du tapis. Et bien sûr, je voulais absolument rester sur mon tapis. Et j'avais un petit peu ce stress de ne pas gêner les photographes donc, de la presse mondiale et de trop relever les coudes, etc. Et de me faire virer du tapis rouge. Je voulais rester jusqu'au bout. Quoi. Voilà, c'était un petit peu ça, le stress que j'avais.
Et là, tu as eu l'occasion d'échanger avec d'autres photographes et de prendre des conseils ?
Oh, j'ai pas eu le temps parce que moi, j'en aurais bien pris, mais alors eux sont stressés à mort. Hein. J'ai appris le métier de journaliste, je l'ai un peu vu là-bas. Ils vont échanger deux mots, puis oui, c'est ça, casse-toi, enfin, on a autre chose à faire. Ils branchent l'ordinateur portable, ils sont pressés. Je pense qu'il faut qu'ils envoient les photos très rapidement.
Ils travaillent ce jour-là.
Ils étaient un peu étonnés de voir des Français. Ça a été des échanges très rapides. Non, malheureusement, j'ai pas eu le temps de vraiment discuter technique avec eux.
Tu sais qui va arriver ou tu le découvres à l'ouverture de la limousine?
Ah non, c'est quand les portes s'ouvrent des limousines, c'est le paquet cadeau, quoi. On ne sait pas, donc les vitres sont teintées, on ne sait pas, on voit surgir Leonardo DiCaprio, Sharon Stone à tour de rôle. Alors, un petit truc que j'ai découvert, c'est en fonction du nombre de gardes du corps, on voit à peu près l'importance de la star. Donc, lorsqu'on commence à voir sortir 5-6 gardes du corps, on dit « oulala, là, il y a quelqu'un d'important qui va surgir
». D'accord. Par rapport aux photographes, ils posent dans le sens, alors on est clair qu'on ne va pas poser comme dans un studio, mais est-ce que tu peux attirer le regard, est-ce que tu peux les amener à te regarder un petit peu ou pas du tout?
Oui, on peut, effectivement, mais moi j'avais pas, voilà, c'est toujours pareil, hein, le manque de professionnalisme, j'ai vu que les photographes appellent les stars, et ce que moi je n'ai pas fait, Brad, voilà, lorsqu'il y a Brad Pitt, tout le monde l'appelle. Et là, il se retourne, là, il fait un sourire, il fait un petit signe de la main, voire il vient au contact, c'est arrivé. Ça dépend des stars, en fin de compte. Il y en a qui snobent un petit peu tout ce monde, mais j'en ai vu beaucoup qui traînaient parce que le tapis rouge des Golden Globes est beaucoup plus long que le tapis rouge du Festival de Cannes. Et donc, les stars prennent relativement leur temps pour faire cette distance. J'ai été étonné, d'ailleurs, du temps qu'ils prennent. Mais moi, je n'ai pas eu ce réflexe. Je le regrette maintenant, parce que c'est une expérience qui se reproduira vraisemblablement jamais pour moi. Mais oui, oui, il faut les appeler. Alors paradoxalement, puisque j'y pense, autant à l'arrivée, c'est un peu quand même la cohue, parce que tout le monde les appelle, tout le monde veut les voir, tout le monde veut leur serrer la main ou les embrasser. Par contre, à la sortie, c'est d'un calme impressionnant. À la fin des Golden Globes, les stars sont sorties une à une, bon, pour rentrer chez elles. Et là, elles ont plus de temps, elles sont moins stressées. Et certaines ont même parlé aux policiers français. Au Golden Globe, il y a beaucoup de rouge. Hein, le tapis est rouge, il y a des tentures rouges. Enfin, et bon, ces robes de soirée, ces stars sur ce fond rouge, graphiquement, ça donne pas mal.
C'est un peu effectivement des événements d'exhibition. C'est l'impression que j'ai en t'entendant parler. Un, bon, ben, ils sont effectivement bien habillés, etc., pour être bien pris en photo, bien mis en valeur. Deux, le décor, en finale, est conçu pour les mettre en valeur. Tu as l'énorme tapis pour justement qu'on puisse faire beaucoup de photos. C'est un peu une espèce de studio en plein air, quelque part.
Oui, c'est exactement ça. Et puis, il faut savoir que les deux principaux prix du cinéma et des séries télé américains sont les Oscars et les Golden Globes, et que tous les deux se passent à Los Angeles. Donc, les Golden Globes, au mois de janvier, à Beverly Hills, et les Oscars à Hollywood Boulevard, hein, et c'est un mois après. Ils sont déjà en concurrence redoutable entre eux. Après, bon, bien, on peut ajouter éventuellement le Festival de Cannes, mais les prix ne sont pas du tout pareils, puisque là-bas, on récompense en priorité les stars américaines.
Maintenant que tu reviens, je suppose que tu n'as pas arrêté de faire de la photo. Est-ce que tu sens que ça change ta manière de travailler ?
Pas spécialement. Je reste dans mes thèmes de prédilection, hein, que ce soit un petit peu la macro, le reportage, ce que j'appelle le reportage de rue, si possible en noir et blanc. J'essaye de faire du noir et blanc avec le numérique. C'est pas encore ça, mais doucement, la qualité s'améliore. Non, ça n'a pas changé ma façon de travailler. Par contre, ça m'a donné envie de recommencer. J'aimerais bien participer au Festival de Cannes, parce que même si j'ai photographié les stars, même si je suis allé donc au Golden Globe, j'ai un petit goût d'amertume, j'ai raté certaines photos. Au niveau des stars, oui, j'en ai réussi quelques-unes, mais j'ai été globalement déçu de ne pas avoir reconnu beaucoup de stars. Je sais que Jennifer Lopez m'est passée devant, Kate Winslet, des actrices que j'aime bien, hein, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Je ne les ai pas reconnus. Alors, est-ce le fait que certains soient arrivés en même temps ? Est-ce que je ne les ai pas reconnus parce qu'ils sont en tenue de soirée, coiffés, maquillés d'une façon très particulière et pas toujours tels qu'on les voit dans les films ? Ce n'est pas spécialement un regret de photographe, c'est un regret personnel. Sinon, au niveau des photos, oui, alors il faut voir. J'ai raté Penelope Cruz à la moitié cachée. J'ai un peu manqué à la fois de pugnacité, d'initiative. Et ça me laisse un petit goût amer. Et j'aime pas, je ne parlerai pas d'échec, mais j'aimerais bien me remettre en question sur un terrain similaire, on va dire. Qu'est-ce que j'aurais pu faire au mieux un peu plus de maîtrise de mon appareil, ça m'aurait servi. Voir travailler en hyperfocale, comme on faisait avant, au moins ça évite des ratés de mise au point, comme ça m'est arrivé sur la démonstration de Jimmy Fox, par exemple. Je me serais peut-être mis en hyperfocale, vu qu'il y avait une luminosité fantastique. Hein. C'est Los Angeles, c'est la Californie, donc c'est la Côte d'Azur. Hein. Il y a une belle luminosité, donc on peut travailler avec des ouvertures un peu plus larges et à des bonnes vitesses. Parce que la mise au point, tout automatique qu'elle soit, ne fait pas toujours tout. Justement, sur le D200, il y a plusieurs modes de mise au point, hein, par anticipation, par zone, prédictif, etc., que je maîtrisais pas très bien, que je maîtrise d'ailleurs toujours pas très bien, parce que j'ai beau lire, j'arrive pas à mémoriser vraiment la différence.
C'est abominablement compliqué, je suis assez d'accord avec toi.
Voilà, et ça, effectivement, je pense que dans ce genre d'événement, il faut très très bien le maîtriser. Soit on se sert de l'automatique qu'on maîtrise parfaitement, auquel cas notre photo est nette, soit moi je vois bien l'hyperfocale, pourquoi pas, au moins on aurait eu pas mal de photos nettes. C'est vrai qu'il y avait quand même du monde, hein. Quand je dis que j'étais devant le tapis rouge, j'étais pas tout seul. Il y a quand même des gardes du corps, il y a des services de sécurité, et des fois il faut savoir travailler en extension, ce que je n'avais moi jamais fait. On voit souvent les appareils à bras tendus. Moi, je ne savais pas le faire. Bon, au demeurant, avec un numérique, c'est vite fait de voir si la photo est réussie ou pas. Hein. Ça, je ne savais pas bien le pratiquer. Heureusement que dans le pool vidéo dans lequel je faisais partie, celui chargé donc de la vidéo était un ancien photographe. Il m'a donné de précieux conseils sur l'anticipation des événements. Précieux, précieux.
Quelle est l'exploitation qui va être faite de ces photos ?
Alors, c'est purement interne à la police nationale. Quelque part, j'ai travaillé pour eux. Je leur ai donné mes droits, hein, puisque j'étais le photographe officiel. Alors, ils vont servir à faire des plaquettes pour le recrutement, pour la formation, pour dire aux jeunes policiers que c'est un métier varié, que tout est possible, on peut participer à des missions d'exception comme celle-là.
Écoute Claude, merci d'avoir pris le temps de venir partager cette expérience avec nous. C'est un petit peu le rêve de tout amateur, je crois qu'on a tous envie comme ça de faire une grande cérémonie. Et puis ce rêve, tu l'as vécu et c'est gentil d'être venu partager comme ça cette expérience sur le rêve avec nous. Si j'ai bien compris, en fait, si on te propose d'y retourner, tu signes.
Sans problème.
Merci Claude.
Merci Benoît, le plaisir est pour moi. Comme tu dis, j'ai vécu une expérience exceptionnelle. Je suis content d'en parler et ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Quand je regarde les revues avec les concours photos, il y a souvent, je me dis, je ne suis pas à la hauteur. Si, pas au moins. On se lance un challenge, on est à la hauteur. Bon, moi, c'est en interne. Ça peut être aussi dans d'autres concours. On est toujours à la hauteur, donc je suis content d'en parler. Ça peut arriver à n'importe qui de passionné. Merci, Benoît. Au revoir.
Merci, au revoir. Un grand merci à Baptiste qui a trouvé le sujet, qui l'a enregistré et qui l'a monté. Troisième segment avec vos commentaires et vos réactions. Tout d'abord, Carnet Rose, Laurent et Anne-Lise se sont mariés ce week-end. Laurent lui doit entre autres le logo de déclencheur et au nom de tous, je voudrais leur adresser tous nos vœux de bonheur. Ensuite, comme je n'ai pas traité les commentaires depuis l'épisode Rencontre avec John Knack, la liste elle est maintenant tout simplement trop longue pour pouvoir la reprendre dans son intégralité. J'ai plus de 15 pages de commentaires. On en aurait pour plus d'une demi-heure. Aussi, je vous propose de procéder en deux temps. J'ai posté l'essentiel des réactions dans un billet sur Déclencheur Carnet, donc ce nouveau blog. Vous pouvez donc les lire sur www.déclencheur.com. Et je vous propose de nous attarder maintenant sur les commentaires qui correspondent aux questions les plus fréquentes. Avec tout d'abord quelques messages d'encouragement d'Adrien, Lafailly, Patmen, Laurent de Grenoble et Mathieu Luna. Mathieu qui vient de s'enfiler les 121 épisodes de Déclencheur en une semaine, et là je crois que c'est un véritable exploit. Il apprécie tout particulièrement de voir perfectionner sa technique photo tout en vaguant à d'autres occupations, et je persiste à dire que c'est un des grands avantages du podcasting. On commence les commentaires sur la rencontre avec David de Bogan Imaging, qui date de mars 2008. Le sujet, c'était le choix d'un trépied ou d'un monopode, des commentaires reçus de Samuel, Toff, Mohan, Floodine, Frigdev, Godzilla, Philippe C, Mickey, 28Mark28, Easy Rider, Thomas Mersenne Paris, Maxime Grislin, Wompat et Si. Et vous irez lire mes réactions donc sur le blog. Sherpa Vert s'interroge sur les différences de prix pour des monopodes de poids et de taille similaires. La réponse est souvent à chercher dans la charge utile, sachant que deux monopodes de même taille et de même poids ne vont pas nécessairement accepter la même charge, donc ils ne vont pas nécessairement être capables de porter le même matériel photo, et cette différence elle est liée aux techniques de construction et aux matériaux, le carbone c'est léger mais c'est très cher. Un autre élément aussi, la finition. Certaines marques sont, on va dire, plus luxueuses que d'autres. Ensuite, sur le mini consacré à la balance des blancs, Flodine s'interroge sur l'utilisation artistique de la balance des blancs. Alors, le propre d'un mini, c'est de faire un zoom sur une partie d'un sujet, et donc volontairement, on ne le traite pas complètement, mais on a déjà, dans plusieurs épisodes, insisté sur le fait que la balance des blancs comporte effectivement un aspect créatif, puisque la balance des blancs influence directement le rendu. Et donc, par exemple, on va pouvoir introduire une valeur qui va être techniquement fausse, mais qui assure un rendu plus agréable. Ma démarche est souvent de partir de la valeur mesurée, la balance des blancs entre guillemets techniquement correcte, et puis d'ajuster, typiquement en baissant la température de couleur pour arriver dans des tonalités plus chaudes. Franck Doyen rappelle à ce sujet l'utilité d'une cible neutre, en tout cas comme point de départ, bien dit, et en plus si vous l'achetez sur déclencheur, vous soutenez le podcast. D'autres commentaires sur le sujet de Vikos, Wompat, Pierre-Luc, Caressa Godzilla, qui, je le rappelle, sont traités sur le blog Carnet. Ainsi d'ailleurs que les commentaires de Nitram, Photogolf, Alexandre Cometti, Pep et Arcavius sur le duo consacré au livre DxO pour les photographes. Ensuite, les commentaires sur le mini espace de couleur avec Jean-Yves et Alain Capara qui s'interrogent sur l'utilité d'un profil plus large que ce que l'appareil capture ou que l'écran peut afficher. Pour remettre tout ça en contexte, je crois que la raison pour laquelle Adobe nous donne le choix dans Photoshop de l'espace de travail, c'est parce que dans l'absolu, il n'y a pas un choix qui soit bon, valable dans toutes les situations. Il ne faut pas oublier que Photoshop est destiné à être utilisé par beaucoup de types d'utilisateurs très différents. Et je dirais qu'en gros, pour la photo, il y a deux écoles. Une école conseille de travailler avec l'espace le plus large, même s'il est plus large que ce que les périphériques peuvent afficher, pour conserver toutes les couleurs capturées par l'appareil, sachant que les périphériques s'améliorent au fil du temps, et donc chaque fois qu'on revisite une photo, on a accès à de nouvelles couleurs. L'autre école trouve ça dangereux ou inutile et préfère se limiter à ce que le périphérique de sortie montre, donc au mieux Adobe RGB, parfois même SRVB simplement. On pourra en débattre pendant des années, j'ai une opinion, vous en avez peut-être une autre, mais souvent quand deux écoles s'affrontent ainsi, c'est le signe qu'il n'y a pas une solution tranchée qui va convenir à tout le monde. Et donc je crois qu'il faut s'informer des conséquences du choix qu'on va faire, accepter que le choix va contenir une part, on va dire, d'arbitraire, et vous informer sur les conséquences de ce choix, c'est ce que j'essaie de faire sur Déclencheur en demandant à différents intervenants leur point de vue. Pour compléter le mini et pour répondre à Ludovic qui souhaite un Mac sur le sujet, je vous invite à réécouter l'épisode de novembre 2006. C'est il y a un certain temps, mais ça répondait parfaitement à la question. Radada s'étonne parce qu'il a des couleurs moins vives quand il travaille en Adobe RVB, ce qui est l'inverse de ce qu'on avait expliqué dans le mini. Nicolas Esposito lui explique que c'est sans doute un problème logiciel, son logiciel ne prenant pas ou prenant mal en compte le profil. Enfin, comme le dit Wompat, le sujet reste complexe, et je note d'ailleurs qu'à la fois Adobe et Apple ont fait le choix de la simplification en proposant dans leur nouveau logiciel Aperture Lightroom un seul espace de travail. Des réactions très positives de David, RSA Godzilla, Pierre-Luc, Franck Doyen, Mag et Pat Pro sur la rencontre avec François Monteneau, le photographe aveugle. Le Poisson d'Avril vous a également plu avec des messages sympathiques et drôles de Mac Popiette, France Carlier, Franck Doyen, Angone, Vincent F, Papillon 41, Lionel G, Adri, Jérôme Léon, Damien S, Franck K et Sidney Nigel. L'interview de John Nag d'Adobe a elle aussi généré pas mal de commentaires positifs de Sylvain Bouy, Romy, Quétan, Jean-Laurent, Tati, Thomas et PM. Sur les interviews de la centième, les coulisses de la centième, rien que du bon là aussi, avec Max, Emmanuel, Antoine Meignier, Sébastien Chenal, Alain Thomas, Serge et Adrien. Une nouvelle fois, vous lirez mes réactions pour tous ces commentaires sur le nouveau blog Carnet. Sur les plateaux rapides en L, des remarques intéressées de Didier, Philippe Delettré, Caps, Archéofocus, Golf Boic, Peter, Paul 12, Big Beer et Joseph. John Day et Christian partagent leur expérience d'utilisateur, confirment tout le bien qu'ils pensent de ces solutions. John Day attire notre attention sur une boutique européenne, Photo Pro Shop, qui qui importe ce matériel. La boutique semble être liée aux Nikoniens, mais ne se limite pas au matériel Nikon. Une boutique en Europe, ça veut dire pas de problème de taxes, pas de frais de douane, mais la boutique reste anglophone. En parlant des taxes, Sylvain s'inquiète du sérieux de Real Red Stuff. J'ai pas passé des dizaines de commandes chez eux, on n'achète quand même pas des dizaines de plaques, mais je n'ai jamais eu le moindre souci. Par contre, il faut impérativement parler anglais ou avoir un ami qui le fait. Il faut compter quand même plusieurs semaines pour la livraison et prévoir effectivement des frais qui vont contenir la TVA, des frais de douane et des frais d'import, que vous payerez non pas auprès de la boutique, donc vous ne connaissez pas le montant exact lors de l'achat, mais vous les payerez à la douane, donc en final l'importateur, c'est-à-dire la poste. Quant à Mickey, il s'interroge sur le matériel nécessaire pour équiper sa rotule Manfrotto d'un plateau rapide Arca Suisse. Et en réponse, je voudrais attirer l'attention sur un commentaire de David. Donc David de Bogen, qu'on avait rencontré il y a quelques semaines dans cet épisode sur le choix des trépieds et des monopieds. David qui, dans son commentaire, nous, on va dire préannonce ou attire notre attention sur le fait que Jigsaw Manfrotto va renouveler sa gamme rotule et accessoires. Les produits seront annoncés à la Photokina de Cologne. Si on plonge maintenant dans les épisodes plus anciens, je commence par la discussion autour du « Il faut une légende ». Le débat continue, je vous invite à y participer. Je vous invite également à lire mes réactions sur Carnet. Mais on a des contributions de Gaps, Help et Mathieu. Sur le commentaire de Mathieu, je n'ai pas vraiment compris le distinguo qu'il fait entre légende et titre. Sur un épisode encore plus ancien, consacré au DNG et au format RAW, un commentaire d'Olivier. Olivier qui dit souhaiter que le format RAW reste fermé, et ce pour éviter qu'on puisse éditer un fichier RAW, et donc, je cite, lui faire perdre alors sa qualité de négatif numérique. Alors si j'ai bien compris ce qui intéresse Olivier, c'est l'aspect preuve qu'un fichier non modifié peut entraîner. Et là je dis attention, si je comprends le besoin, le négatif permet effectivement d'établir la paternité de la photo, dans un certain nombre de cas juridiques on va aussi vouloir s'assurer que le fichier n'a pas été modifié, je répète, je comprends le besoin, je dis attention, ce n'est pas du tout la bonne démarche. Et donc je mets ma casquette d'informaticien pour épingler ce commentaire et dire on entend souvent ce genre de remarques. Elle se base sur une vraie non-compréhension du fonctionnement technique d'un fichier informatique. La notion d'original en informatique, elle est différente de l'original dans le monde physique. Et je crois qu'Olivier pousse trop loin à l'analogie avec le négatif. Pour assurer cette fonction de preuve, comme le demande Olivier, il faut se tourner vers des techniques d'encodage. Et d'ailleurs, Canon, Nikon et Lexar ont proposé des solutions de ce type, en assurant l'encodage d'un fichier pour des applications légales. Si c'est un problème de paternité, là, il faudra se tourner vers des solutions d'autorisation électronique. Mais c'est très important. Ce que propose Olivier, c'est-à-dire un format de fichier fermé pour assurer une prétendue sécurité, ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on appelle en informatique la sécurité par l'obscurité, et il est prouvé que ça ne fonctionne pas. Daniel Albert répond d'ailleurs à cet argument, là aussi dans les commentaires. Je le répète, le besoin d'Olivier est légitime. Mais justement, parce qu'il est légitime, il faut une réponse qui soit techniquement solide. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, ne manquez pas de visiter www.déclencheur.com où, entre le Wiki News et le nouveau blog Carnet, ça bouge tous les jours. Pour être certain de ne pas rater une miette, vous pouvez évidemment vous abonner. L'abonnement à un podcast est gratuit. Cela signifie simplement que vous recevez les nouveaux épisodes au fur et à mesure de leur parution. Tous les renseignements pour ce faire sont sur www.déclencheur.com.